Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, la grève des enseignants contre la pagaille dans les écoles en pleine vague de Covid, la bataille des chiffres fait rage, 38% de grévistes dans le primaire selon le ministère, 75% selon le principal syndicat. Nous allons dans les cortèges parisiens et marseillais, comment s'organisent les établissements et les familles, et puis quelles sont les propositions des candidats à la présidentielle plus largement pour l'école. Nous verrons cela. La campagne, c'est aussi Anne Hidalgo, invitée de France Inter ce matin. Si la primaire populaire ne la désigne pas, est-ce qu'elle maintiendra sa candidature?
Évidemment, comme le feront d'ailleurs Jadot et Mélenchon, d'après ce que j'ai entendu.
Et à 13h30, c'est le conseiller spécial de Marine Le Pen, Philippe Olivier, qui est l'invité du 13-14. Toutes vos questions, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Dans l'actualité encore, un ancien colonel syrien condamné à la prison à vie en Allemagne. Premier procès jugeant les exactions du régime de Bachar el-Assad. La baguette de pain à 29 centimes. D'euros chez Leclerc. Coup de pub, concurrence déloyale, dénoncent les artisans boulangers. Faut-il obliger les cyclistes à porter un casque? Débat au Sénat. Et puis Djokovic inscrit dans le tableau de l'Open d'Australie de tennis, mais toujours menacé d'expulsion. Vos rendez-vous dans le 13-14, le feuilleton, quatrième épisode avec la chef d'orchestre Zaya Ziwani, défense de la musique classique en Seine-Saint-Denis. Le vif de l'histoire, Anne et Molière, homme de toutes les légendes, Jean Lebrun essaiera de démêler le vrai du faux. Et puis dans C'est une chanson, nous écouterons Help des Beatles. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
La grève dans les écoles, collèges et lycées a-t-elle la portée historique qu'annonçaient les syndicats? Tous appellent à la grève aujourd'hui contre les mauvaises conditions d'accueil des élèves en plein Covid, les changements de pied dans le protocole sanitaire. Mobilisation particulièrement forte attendue dans le primaire. On fait le point des chiffres dans un instant. À Marseille, la manifestation avait lieu ce matin entre la porte d'Aix et le centre-ville. Parole de manifestants, des enseignants, mais aussi des parents. Reportage France Inter à Marseille, Olivier Martoc.
Environ 500 personnes dans les rues de Marseille, les organisateurs reconnaissaient que c'est peu.
Je suis Magali Hidalgo, je suis co-secrétaire départementale de la CGT Éducation. Il y a beaucoup de collègues qui gardent leurs enfants à la maison. On a aussi quand même pas mal de personnel qui a le Covid. Ça réduit d'autant le cortège. Mais le mouvement est très suivi, à la fois dans les écoles, les collèges et les lycées.
Les revendications portées sur le protocole sanitaire.
Caroline Chevet, je suis secrétaire départementale de la FSU 13. Le but de cette journée, c'est vraiment de mettre un coup d'arrêt à la situation. Il faut que ce soit entendu, qu'on reparte sur d'autres bases. Qu'on prenne en compte vraiment la réalité de ce qui se passe dans les classes sur le terrain.
Une réalité du terrain illustrée par de nombreux exemples de situations aberrantes.
Dans mon établissement, on a un manque d'infirmières et par exemple le service scolaire de santé est resté fermé à minima 2 jours cette semaine. En pleine pandémie, d'avoir l'infirmerie fermée certains jours, c'est pas envisageable.
Enfin, plus surprenant, en queue de cortège, derrière une banderole, des parents réclamaient eux que l'on pense d'abord aux enfants.
De leur apprendre avec un masque, ça va sûrement créer des troubles de dyslexie ou autre, etc. Donc à un moment donné, la priorité au centre, c'est les enfants.
Dans le cortège marseillais, Olivier Martoc, France Inter.
Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, soutient cette journée de grève, non pas contre le virus, dit-il en reprenant l'expression de Jean-Michel Blanquer, mais contre l'absence de concertation et une forme de mépris. Il y avait des manifestations ce matin, entre autres à Clermont, Saint-Étienne, Nice, Reims, Avignon. Et à Paris, c'est dans moins d'une heure, direction le quartier du Luxembourg. Bonjour Sonia Princey.
Bonjour.
Spécialiste des questions d'éducation à France Inter, vous êtes sur les lieux de la manifestation parisienne qui doit donc commencer à 14h, est-ce qu'il y a déjà du monde ?
Oui, alors les manifestants commencent tout juste à arriver. Hein, on voit les drapeaux des syndicats. Le parcours a été modifié et rallongé car on attend beaucoup de monde. Anne-Sophie est professeure des écoles à Paris. Son conjoint est directeur. Elle est arrivée très en avance et elle est très remontée.
Je pense qu'on est venus tous unitairement exprimer un ras-le-bol face au déni de réalité de notre ministre. Non, ça se passe pas bien en vrai dans les écoles. On apprend les procédures dans les médias, dans des médias payants, la veille pour le lendemain. Ce genre de communication, pour moi, c'est la goutte qui fait déborder le vase.
Des enseignants, mais aussi des personnels de direction, des surveillants seront là pour se faire entendre. Le mouvement est très large. Ils défileront jusqu'à la rue du Bac, à proximité du ministère de l'Éducation nationale.
Alors Sonia, j'en disais un mot en titre. Sur la mobilisation, la bataille des chiffres a commencé.
Oui, la mobilisation est très forte, c'est une certitude, dans le premier degré surtout. 38,5% des professeurs des écoles en grève, selon le ministère, 75% selon le premier syndicat du primaire. Dans le second degré, le ministère donne le chiffre de près de 24% de grévistes, 62% selon le syndicat SNES, qui précise aussi que 80% des assistants d'éducation sont en grève, ce sont les surveillants dans les collèges et lycées, ce qui veut dire que beaucoup d'établissements scolaires sont paralysés dans leur fonctionnement aujourd'hui. Beaucoup d'écoles sont fermées. Ces chiffres sont exceptionnels et les syndicats sur place parlent d'une grève historique.
Sonia Prince, à Paris, quartier Luxembourg, d'où doit s'élancer la manifestation des enseignants dans moins d'une heure, en direct avec les moyens techniques de Marc Garvenès pour France Inter. 12 millions de tests PCR anti-Covid ont été réalisés la semaine dernière, nouveau record en France. C'était la semaine de la rentrée après les vacances de Noël. 3 millions de tests pour les moins de 16 ans en particulier. Jean-Michel Blanquer jugeait mardi qu'il était dommage d'avoir une journée de grève où l'on va perturber davantage le système. Quel est l'impact dans les établissements? Magali Homo, vous êtes allée au collège-lycée Rodin, 13e arrondissement de Paris. Les élèves et parents ont parfois découvert au dernier moment leur emploi du temps de la journée.
En arrivant au collège, Nino ne savait pas trop comment allait se dérouler sa journée.
Pas trop au courant de qui est pas là et qui est là, c'est un peu relou.
Son copain Raphaël est donc allé se renseigner devant la grille. Verdict.
Ouais, en fait, on a cours.
Dans le lycée à côté, les terminales ne se sont pas levées pour rien.
Oui, je vais avoir cours, mais j'ai une prof qui est absente.
Certains ont même du pain sur la planche aujourd'hui.
Anglais, 2 heures de français.
Il faut dire qu'il y a le bac dans quelques mois.
Je suis en terminale et mes professeurs pensent aux épreuves qu'on a en mars. C'est un peu plus important actuellement.
Des élèves globalement compréhensifs.
La semaine dernière, on était genre 6 en classe et c'était n'importe quoi. Enfin, la moitié du lycée n'était pas là. Il y avait tellement de cas de contact et de cas Covid. Et le lycée continue à être ouvert. C'est pas raisonnable, quoi.
Ma mère est prof, mon père est prof. Je vois pas pourquoi je tiendrais pas.
Et des jeunes accueillis par la proviseure en personne.
On sait déjà que la journée va être assez difficile.
Julie Bouvry, membre du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Ce midi, service minimum à la cantine, assuré par ses soins. Elle se réserve aussi la possibilité dans la journée de rassembler les collégiens dans la cour de récré.
Si nous avons trop d'élèves à gérer au même moment, nous les mettrons en extérieur, dans la cour, mais dans nos murs.
Et plus tard dans la journée, elle espère pouvoir se joindre au cortège.
Parmi les deux grandes fédérations de parents d'élèves, la FCPE appelle à une journée blanche aujourd'hui en dénonçant le casse-tête du protocole sanitaire, en réclamant des moyens en masques, en capteurs de CO2 ou purificateurs d'air. L'autre fédération de parents d'élèves, la PEP, estime au contraire que les élèves ont besoin d'être en classe. La grève les pénalise, eux et leurs parents, mais elle appelle à des solutions durables sur la gestion de l'air dans les écoles. Alors comment les familles s'organisent-elles? Soizic Pellet, vous suivez depuis ce matin une famille de la région toulousaine à Drémil-Lafage, village à une vingtaine de minutes à l'est de Toulouse. Tous les enseignants de l'école primaire sont absents aujourd'hui. Le papa s'appelle Romain, la maman s'appelle Soizic. Deux enfants, l'un avec l'asthme, pas l'autre.
Deux équipes dans cette famille, ceux qui sont partis tôt ce matin de la maison et ceux qui restent tranquilles pour la journée. Pas d'école pour Zélie en CE2, avec quelques petits avantages.
Je regarde un peu les dessins animés.
Comme si c'était un dimanche, voilà.
Romain, le papa, a anticipé et s'est organisé pour rester disponible pour sa fille.
J'avais anticipé l'idée que cette journée serait un peu blanche au niveau professionnel et qu'il n'y aurait donc pas de rendez-vous. En tout cas, j'ai fait en sorte que les rendez-vous soient plutôt hier ou reportés au lendemain. C'est une journée prévue pour elle.
Au programme, donc, dessin animé, mais aussi visite de la médiathèque de Toulouse.
Ça l'a toujours impressionné, parce que c'est vrai que c'est un grand bâtiment qui est en plein milieu de la ville. Ben, c'est peut-être l'occasion d'aller faire un tour à deux, voilà, sans avoir ni maman, ni le petit frère dans les pattes.
Et malheureusement pour Zélie, c'est la grosse mission de la journée, là. Trier les jouets.
Ouais. Là, on a une grande caisse remplie, on a mis tout le bazar. Et avec Zélie, on va essayer de trier pour re-ranger.
J'ai pas trop envie, mais je le fais quand même. Parce que des fois, on fait des choses et qu'on n'a pas envie de faire.
Les devoirs, ça rentre aussi dans cette catégorie. Et ça sera également au programme de la journée. Même si l'école à la maison, Zélie et son papa, comme tous les parents, commencent à avoir l'habitude.
Sur franceinter.fr, 50 profs nous disent pourquoi ils font grève. L'opposition et les candidats à la présidentielle de Zemmour à Mélenchon les soutiennent. Tous ne défileront pas aux côtés des enseignants aujourd'hui, ce sera surtout la gauche. Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Christiane Taubira, Fabien Roussel et Anne Hidalgo, qui était l'invité de l'émission spéciale de France Inter aujourd'hui, les candidats face à la matinale, on en reparle dans un instant. À 87 jours du premier tour de la présidentielle, cette grève C'est aussi l'occasion de s'arrêter sur ce que proposent plus largement les candidats pour l'école. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Et d'abord, que propose-t-il Élodie pour les enseignants?
Alors c'est l'une des questions majeures. Hein. Comment rendre plus attractif le métier d'enseignant? À gauche, la socialiste Anne Hidalgo avait frappé fort en début de campagne en promettant de doubler les salaires. Au final, ce doublement ne figure pas dans le programme. Ce matin sur France Inter, la candidate précise sa pensée. Il s'agit de progressivement atteindre une rémunération équivalente à celle des cadres, en commençant par augmenter les professeurs des écoles à qui elle promet 2300 euros par mois en début de carrière. Chez les autres candidats, rien d'aussi précis. L'insoumis Jean-Luc Mélenchon veut rattraper le gel du point d'indice et ouvrir une négociation pour revaloriser les grilles salariales. Interrogé lundi sur le sujet lors de la présentation de son programme sur l'école, Éric Zemmour a lui été catégorique. Pas d'augmentation globale des salaires, mais un système de primes au mérite.
Et plus largement, Élodie, que proposent les candidats pour réformer l'école?
Là, il y a presque deux camps qui s'affrontent, Bruno, les nostalgiques et les progressistes. Le nostalgique en chef, c'est Éric Zemmour qui rêve d'une école couleur sépia, avec en primaire le retour du certif et de la blouse. Remettre l'uniforme, c'est aussi dans le projet de Marine Le Pen. Autre point commun partagé avec Valérie Pécresse, la remise en cause des manuels d'histoire, enseigner la fierté plutôt que la repentance, dit la candidate LR. Tous les trois veulent aussi en finir avec le collège unique.
Et à gauche?
Eh bien, dans ce camp-là, on s'interroge sur la pédagogie, le temps scolaire, avec Yannick Jadot, par exemple, qui veut des enseignements pratiques à l'école, que l'on apprenne à nos enfants à cuisiner, à bricoler ou à jardiner. Quand Anne Hidalgo souhaite, elle, des états généraux de la pédagogie qu'elle juge aujourd'hui trop classique. À gauche, notons aussi la proposition du communiste Fabien Roussel de rallonger le temps scolaire, les enfants aux 32 heures et 90 000 enseignants de plus pour en assumer la charge. Un plan d'embauche proposé également par Jean-Luc Mélenchon, pas pour augmenter le temps scolaire, mais pour faire baisser le nombre d'élèves par classe.
L'éducation est donc parmi les sujets prioritaires d'Anne Hidalgo, qui détaille son projet depuis hier. Vote à 16 ans, droit à une aide active à mourir, hausse du SMIC de 15%, interdiction des néonicotinoïdes, capital de 5 000 euros pour les jeunes de 18 ans et avancement des frais pour la rénovation thermique. Vous trouverez d'autres détails sur franceinter.fr. Et ce projet, elle compte bien le porter jusqu'au bout. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Alors que la candidate socialiste ne décolle pas dans les sondages, elle l'a affirmé très clairement ce matin sur France Inter, elle ne compte pas renoncer.
Oui, le message est clair, pas question de disparaître, pas question de s'effacer derrière un autre candidat. Quel que soit le résultat du vote des sympathisants de la primaire populaire qui aura lieu à la fin du mois, Anne Hidalgo ne se rangera ni derrière Yannick Jadot, ni derrière Jean-Luc Mélenchon, ni surtout derrière Christiane Taubira.
Ça sera une indication très intéressante de ce que veulent les citoyens. Mais moi, ma campagne, ma candidature, mes propositions sont là. Je les déroule et je vais essayer de rassembler aussi à partir de mes propositions.
Dans des propositions pragmatiques, chiffrées, insiste Anne Hidalgo, qui se présente une nouvelle fois face aux écologistes et à la France insoumise comme la candidate d'une gauche capable de créer une dynamique et de gouverner. Deux exemples, explique la candidate socialiste, l'Allemagne avec la récente victoire des sociaux-démocrates et puis en France, les villes et les régions gérées par les socialistes depuis les dernières élections locales. Le PS, dit-elle, a su travailler avec d'autres partis.
Je pense que la position pour rassembler, elle doit être centrale. Pas centriste, mais centrale. Quand les forces du Parti Socialiste sont devant dans des élections, on rassemble, on crée des majorités et on arrive à gouverner. Maintenant, il nous faut passer du local au national. Il nous incombe à nous, c'est comme ça, de relever ce défi-là et de reconstruire.
Reconstruire la gauche, presque un programme dans le programme, un défi en soi pour le PS à moins de 100 jours du premier tour.
Et donc le programme d'Anne Hidalgo sur franceinter.fr. On a entendu les manifestants au début de ce journal. La journée ne doit pas être des plus agréables pour Jean-Michel Blanquer. Pour le ministre de la Justice non plus. Éric Dupond-Moretti est convoqué le 28 février devant la Cour de Justice de la République. C'est l'enquête pour prise illégale d'intérêt. Le garde des Sceaux est soupçonné d'avoir profité de ses fonctions de ministre pour solder des différends avec des magistrats datant de l'époque où il était avocat. Ariane Grissel, quelle importance faut-il donner à cette convocation ?
Ce rendez-vous d'Éric Dupond-Moretti sera le deuxième avec les magistrats instructeurs dans cette affaire. La première fois, en juillet, son audition a débouché sur sa mise en examen et il est habituel dans ce type de dossier, souvent complexe, que les mises en cause soient interrogées à plusieurs reprises. L'affaire remonte à juin 2020. Le magazine Le Point révèle alors que trois magistrats du parquet national financier ont analysé les factures téléphoniques détaillées, les fadettes, de l'avocat Éric Dupond-Moretti parce qu'il cherchait à savoir qui avait prévenu Nicolas Sarkozy qu'il était sur écoute. minutes dans le cadre d'une enquête. Sollicitée par la ministre d'alors, Nicole Belloubet, l'inspection générale de la justice conclut que cette analyse n'a rien d'illégal. Peu après, Éric Dupond-Moretti, devenu entre-temps garde des Sceaux, saisit à nouveau l'inspection et lui confie une enquête administrative qui vise ces trois magistrats. La principale question dans ce dossier est donc de savoir s'il a utilisé les moyens du ministère de la Justice pour régler des comptes personnels. Depuis le début, le garde des Sceaux dénonce une guéguerre syndicale et se dit prêt à s'expliquer.
Concernant Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, le parquet de Paris requiert un non-lieu dans le cadre de l'enquête qu'il vise pour viol. C'est maintenant à la juge d'instruction de se prononcer. Non-lieu ou renvoi tout de même de Gérald Darmanin devant la justice. Et puis en bref, le parti Les Républicains saisit la commission informatique et liberté pour utilisation frauduleuse de fichiers. Cela après l'initiative prise par l'ex-vice-président des Républicains, Guillaume Pelletier, désormais porte-parole d'Éric Zemmour. Il écrit aux adhérents pour les inviter, les adhérents LR, pour les inviter à rejoindre Zemmour. À 13h30, Philippe Olivier, conseiller spécial de Marine Le Pen, est l'invité du 13-14. Vos questions 01 45 24 7000.
France Inter. Le 13-14. Bruno Duvic.
La baguette à 29 centimes d'euros. C'est la dernière initiative du groupe Leclerc pour faire parler de lui. C'est réussi. Le slogan avancé, c'est la lutte contre la vie chère, l'inflation. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Comment en arrive-t-on à une baguette à 29 centimes?
Alors, de quoi parle-t-on, Bruno? Une baguette de 250 grammes, c'est 160 à 170 grammes de farine, de l'eau, du sel et de la levure. Le blé est à 270 euros la tonne, soit 0,027 euros les 100 grammes. La matière première, ce n'est donc pas ce qui coûte cher. Ce qui est en jeu, c'est plutôt la main-d'œuvre qui représente 30 à 40% du prix de la baguette, selon les artisans boulangers, et les charges fixes, loyers, prix de l'énergie qui continuent de progresser. Ce qui explique une baguette en moyenne en France à 90 centimes, mais à seulement donc 35 centimes chez Lidl et donc 29 chez Leclerc, voire 23 centimes dans certains magasins de l'enseigne. La baguette, produit symbole, la baguette, produit d'appel, vendue à prix coûtant, car Leclerc affirme continuer à payer les producteurs au même prix. Ce qu'il faut comprendre, c'est le gros coup de pression de Michel-Édouard Leclerc, en pleine discussion justement entre fournisseurs et grandes distributions, discussion très tendue, et une façon aussi de montrer les muscles face aux concurrents. Leclerc, tout récemment, a dû s'aligner sur Intermarché concernant le prix des autotests.
Alors évidemment, à 29 centimes, les artisans boulangers ne peuvent pas lutter. Le président de la Confédération de la Boulangerie-Pâtisserie est de fort méchante humeur.
On est vent debout, on est très en colère, et quand je vous dis en colère, c'est toute la filière, c'est-à-dire c'est les agriculteurs, c'est les céréaliers, ce sont aussi les meuniers, enfin bref, toute la forme de boulangerie, parce que c'est une concurrence déloyale. C'est-à-dire c'est un gros coup de com' pour un immense profit qui va venir derrière. Vous savez, on est 33 000 boulangeries, des grosses, des petites, dans les centres-villes, et vous avez des boulangers qui sont dans les montagnes, qui quelquefois vivent de 300 baguettes par jour. Donc ces gens-là, s'ils en perdent 150 pendant 4 mois, ils sont morts. Et après, il n'y a plus de boulangerie, donc c'est vraiment extrêmement grave. Évidemment, c'est pas le même produit, mais si vous voulez, avec des côtés d'appel. Donc là, on regarde au pire. Nous, c'est vrai qu'on se renforce sur la qualité, sur l'accueil, le lien social de ces petites boulangeries. C'est vrai que M. Leclerc, est-ce qu'il va aller, quand il aura vidé toutes les boulangeries des centres-villes, est-ce qu'il ira porter du pain dans les maisons? Ça, je suis pas sûr.
Dominique Enracte, le président de la Confédération de la Boulangerie-Pâtisserie, au micro de nos confrères de France Info. Les votes à l'unanimité ne sont pas si fréquents à l'Assemblée nationale. Ça a été le cas pour la résolution ce matin portée par la France Insoumise, appelant à reconnaître l'endométriose comme affection de longue durée et donc prise en charge à 100%. Cette maladie provoque de violentes douleurs au moment des règles. Mardi, Emmanuel Macron a lancé une réflexion pour une meilleure prise en charge, mais à ce stade, le ministre de la Santé n'est pas favorable à une prise en charge à 100% de toutes les femmes victimes d'endométriose. C'est le premier procès lors duquel on juge des exactions commises par le régime de Bachar el-Assad en Syrie. En Allemagne, à Koblenz, un ancien colonel des services de renseignement syriens vient d'être condamné à la prison à vie pour crime contre l'humanité. Il était jugé pour la torture à mort de prisonniers entre 2011 et 2012. France Inter en Allemagne, Ludovic Piétenu.
107 jours d'audience, près de 2 ans pour que le tribunal décortique le tentaculaire appareil de sécurité syrien et comprenne le rôle de cet ex haut gradé au sein de la prison d'Al-Khatib. Plus de 80 témoins ont raconté les sévices endurés dans des cellules insalubres et bondées. Parmi eux, Wassim Mougdad, parti civil et survivant. Ce procès, dit-il, a été aussi celui des sans-voix.
Voiceless.
Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu partager leur histoire avec nous, parce qu'ils vivent toujours en Syrie, sous cette machine d'oppression qu'est ce régime. On ne voulait que la justice, mais ni vengeance, ni représailles.
Il ajoute avoir découvert ce qu'est un procès équitable, comme sans doute les 6,5 millions de Syriens poussés à l'exil, dont 800 000 installés en Allemagne. Wolfgang Kalek est secrétaire général du Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits humains, une ONG qui soutenait 29 survivants et victimes dans cette procédure.
C'est un important pas en avant en raison de la participation active des gens qui se sont levés en Syrie il y a 10 ans, et la révolution syrienne réclamait la démocratie et les droits de l'homme.
L'Allemagne est le pays où le plus de plaintes se sont accumulées. D'autres procès vont suivre, et sans doute ailleurs dans au moins 5 autres pays européens, dont la France. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Au Kazakhstan, après avoir aidé le président à mater violemment les manifestations contre la hausse des prix de l'énergie, les quelques 2000 soldats russes quittent le pays. Depuis ce matin, ils seront restés environ une semaine, Thibault Lefebvre.
C'est à la demande du président kazakhstanais Kassym-Jomart Tokayev que les troupes russes quittent depuis ce matin les grandes villes du pays. Un retrait qui devrait durer une dizaine de jours. Jean Galief est l'ambassadeur du Kazakhstan en France.
Notre président a promis que, une fois la mission est terminée, le contingent sera retiré. Les autorités kazakhstanaises estiment que maintenant le Kazakhstan est capable de gérer la situation tout seul.
Moscou est intervenu aux côtés de ses alliés de l'OTSC, l'organisation du traité de sécurité collective, pourtant divisée sur les modalités de l'opération. Pour David Gahuser, chercheur en géopolitique et spécialiste de l'Asie centrale, la Russie ne pouvait pas maintenir ses soldats plus longtemps.
L'OTSC viole pour la première fois sa propre constitution, qui lui interdisait d'intervenir dans les affaires internes d'un État. Il y a carrément deux lignes qui s'affrontent, entre une ligne proche d'Alexandre Loukachenko, le président biélorusse, qui maintient une ingérence, et puis il y a l'autre ligne, plus modérée, derrière Nicole Pachinian, le président arménien, qui défend plutôt une intervention de pacification, et avec une non-ingérence dans les affaires internes.
Sur les 2030 militaires déployés depuis une semaine au Kazakhstan, l'essentiel des troupes était envoyé par Moscou, seulement quelques dizaines par les 5 autres pays de l'Alliance.
Et entre Américains et Russes, la semaine de rencontres diplomatiques, une encore à Vienne en cette fin de semaine, eh bien, n'a pas beaucoup, voire pas du tout, réchauffé l'atmosphère pour parler infructueux, cingle le Kremlin ce matin. Plus les jours passent, plus on se demande pourquoi le gouvernement australien met autant de temps à trancher l'affaire Djokovic. Doit-il, oui ou non, être autorisé à disputer l'Open de Melbourne qui commence lundi alors qu'il n'est pas vacciné? Il est inscrit dans le tableau, le tirage au sort a eu lieu ce matin, mais il est toujours sous la menace d'une expulsion. Grégory Pless, en Australie, où les mesures anti-Covid ont été particulièrement strictes depuis le début de la crise sanitaire, comment cette affaire qui n'en finit pas est-elle vécue?
Scott Morrison l'a réaffirmé aujourd'hui, seules les personnes vaccinées contre le coronavirus sont actuellement les bienvenues en Australie. En revanche, il n'a pas dit un mot sur le plus célèbre des non-vaccinés actuellement au pays, Novak Djokovic. Le joueur serbe n'est toujours pas fixé sur son sort et reste pour l'instant sous la menace d'une expulsion. Une menace que le gouvernement australien n'écarte à ce stade toujours pas et sur laquelle il tergiverse depuis maintenant 3 jours. Mais s'il hésite autant, c'est peut-être parce que quelle que soit la décision que Scott Morrison prendra sur le sujet, les réactions seront négatives. C'est ce que pensent plusieurs éditorialistes en Australie, pour qui l'annulation du visa du joueur pourrait à la fois avoir des conséquences lourdes sur l'avenir de l'Open d'Australie, mais aussi être perçue comme trop sévère par le grand public. A l'inverse, s'il laisse Novak Djokovic jouer au tennis, Scott Morrison paraîtra faible, quelques jours seulement après avoir claironné qu'en Australie, les règles sont les mêmes pour tout le monde. C'est donc peut-être ce dilemme, 4 mois avant des élections qui s'annoncent compliquées pour le Premier ministre sortant, qui explique les atermoiements de ce dernier. Sydney, Grégory Pless, France Inter.
Et s'il joue lundi, Djokovic jouera contre un compatriote serbe au premier tour, Miomir Kecmanovic. Faut-il rendre le port du casque obligatoire pour les cyclistes? La pratique du vélo s'est beaucoup développée ces derniers mois. En 2020, moins de 3% des déplacements, il représente le vélo, mais 7% des décès sur la route. C'est la seule catégorie dont la mortalité sur la route augmente depuis 10 ans. Alors l'élu d'hiver droite de Charente, François Bonneau, défend une mesure au Sénat, l'interdiction, l'obligation de port du casque pour les cyclistes et les usagers de trottinettes, pas seulement les enfants de moins de 12 ans.
Plus la moitié des tués étaient des personnes qui portaient pas de casque, et pour les accidents, lorsqu'ils avaient un casque, ils ont été moins gravement touchés, ils ont eu moins de séquelles. Donc ça, c'est une réalité. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'on impose le casque pour des enfants jusqu'à 12 ans, c'est qu'il y a bien une raison, c'est que ça protège et qu'on ne le demande pas après. Donc c'est tout un train de mesures qu'il faut prendre, mais je dirais qu'une mesure simple, efficace, qui peut être prise rapidement, c'est celle de demander de porter le casque. Il y a eu d'autres contraintes dans d'autres domaines avant, que ce soit le port de la ceinture de sécurité, que ce soit le port du casque en moto ou en scooter, et c'est pas pour ça que les usages ont été freinés.
Alors pour l'instant, ce n'est qu'un débat, pas de décision. Écoutez les arguments d'Olivier Schneider, le président de la Fédération des usagers de la bicyclette contre le casque obligatoire.
Pénaliser le non-port du casque pour toutes et tous, en toutes circonstances, quelle que soit la distance, qu'il y ait une piste cyclable ou pas, ça relève typiquement de la fausse bonne idée. Le premier effet pervers, c'est de laisser entendre que le vélo est tellement dangereux qu'il faut absolument porter un casque. Et on voit les rares pays qui ont mis une obligation, il y a une chute de la pratique, parce que ça fait peur. Les hypothétiques traumatismes crâniens évités sont absolument compensés par les milliers de gens qui vont avoir des problèmes de santé liés à la sédentarité. Il y a tout un tas d'autres mesures. Réduire le trafic, radar d'angle mort pour prévenir ces accidents-là, ça, ce serait une mesure pertinente pour améliorer réellement la sécurité routière des cyclistes.
Débat arbitré par Mathilde Dehimy. Les champions olympiques français entrent en lice ce soir à l'Euro de handball face à la Croatie. Du très costaud donc, pour commencer à 20h30. Le sélectionneur Guillaume Gilles accorde beaucoup d'importance à ce match.
Essentiel parce que c'est cette rencontre qui nous permet de lancer l'aventure, qui plus est face à un adversaire du plus haut niveau européen. Des points qui seront d'ores et déjà très importants dans la course à la qualif d'abord, et plus si affinité à plus long terme. Donc c'est un moment particulier parce que c'est là où on repose les bases de la compétition. On s'est préparé du mieux qu'on pouvait dans le contexte actuel, et c'est le moment où la première évaluation va tomber.
Coup d'envoi du match à Szeged en Hongrie à 20h30. Et puis en football, le défenseur de l'équipe de France, Lucas Digne, quitte le club d'Everton pour celui d'Aston Villa, toujours en Angleterre. Avant la météo, un mot des audiences radio pour la période novembre-décembre 2021. En ce qui concerne France Inter, avec toute la gratitude qui s'impose, c'est assez simple à résumer. Jamais une radio n'a été aussi écoutée. Vous êtes 7 millions branchés sur France Inter chaque jour, 6 959 000 très précisément. 7 millions de merci du fond du cœur donc. Mais allons au-delà de ce plaisir qui est très grand. Un autre enseignement de cette vague de sondage, c'est que la radio en général, qui perdait des auditeurs ces derniers temps, en a gagné 429 000 en un an. Le Covid a bouleversé beaucoup de choses dans la société. Et puis une autre évolution est en cours dans le monde de la radio, c'est celle du podcast. Bonjour Alexandra Hakoun.
Bonjour Bruno.
Spécialiste média à France Inter. Que sait-on de l'usage de la radio aujourd'hui?
Eh bien d'abord, pour expliquer cette performance d'un média qu'on dit souvent vieillissant, il faut préciser que les restrictions liées à la crise sanitaire l'avaient sérieusement impacté, car la radio s'écoute beaucoup en voiture, environ la moitié de son audience. Passé le confinement et les couvre-feux, les Français ont repris leurs habitudes lors de leur trajet entre le domicile et le travail. Mais ce qui a surtout changé, Bruno, c'est la mobilité grâce au support numérique dont les chiffres ne font que grimper. Plus de 17% du volume global chaque jour, contre 11% il y a 5 ans. Premier support, le téléphone portable, près de 5 millions d'auditeurs au quotidien, suivi de l'ordinateur et des enceintes à commande vocale pour écouter la radio en direct. Voilà qui remporte toujours leur préférence. Mais le replay et surtout les podcasts attirent de plus en plus. Les podcasts et leur infinie possibilité de contenu. Un format innovant qui séduit un public jeune. 44% des auditeurs de podcast ont moins de 35 ans. Et ça, c'est bien la preuve que la radio a encore de beaux jours devant elle.
Quant aux auditeurs du 13-14, eh bien sachez que vous êtes 1 727 000 à nous écouter chaque jour. La météo dans un instant.
France Inter aime.
Vous m'expliquez ce que vous faites ici, Madame Vinclair, quand vous courez après les heures de ménage?
Ouistreham, un film d'Emmanuel Carrère, d'après le livre de Florence Aubenas.
J'en ai marre d'entendre parler de la crise, de la précarité, d'une façon abstraite. J'ai besoin de voir, de partager le quotidien.
Une écrivaine entreprend un livre sur le travail précaire et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Avec Hélène Lambert, Léa Kern, Evelyne Poré, Patricia Prieur, Émilie Madeleine et Juliette Binoche, Ouistreham, actuellement au cinéma. Un film France Inter.
Voyons le temps de ce jour.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
La journée d'hiver est ensoleillée.
Oui, il fait plutôt froid. Hein. 3 degrés à Lyon, 4 à Metz et à Clermont-Ferrand, 5 à Amiens, Paris, Châteauroux et Dijon, 6 degrés du côté de Cabourg et de Toulouse, 8 pour Rennes et Bordeaux, 10 à Bayonne, à Nîmes, jusqu'à 14 à Ajaccio et même 15 à Toulon. Alors côté ciel, le soleil reprend l'avantage. Malgré tout, des plaques de nuages bas peuvent résister par endroits. Alors c'est le cas vers la vallée de la Garonne, du Lyonnais au Val-de-Saône, vers la plaine d'Alsace. Elles sont tenaces également au nord de la Seine, sur le bassin parisien, sur la Champagne. Je rappelle que la crue de la Garonne se poursuit. 3 départements sont maintenus en vigilance orange par les services de Vigicru. Et puis demain, de nombreuses gelées le matin, Bruno. Beaucoup de grisailles, surtout au nord. Mais le soleil reprendra souvent l'avantage l'après-midi.
Elodie Calac, Météo France. Il est tout juste 13h30.
France Inter. Le 13-14. Bruno Dille.
Ce n'est peut-être pas la mobilisation historique annoncée par les syndicats, mais c'est une mobilisation massive. Journée de grève aujourd'hui dans les écoles, collèges et lycées. On parlait de la bataille de chiffres dans le journal de 13h. 38% de grévistes en primaire selon le ministère, 75% selon le principal syndicat d'enseignants dans le primaire. Des manifestations, celle de Paris commence dans une demi-heure. Voilà pour le contexte à 87 jours du premier tour de la présidentielle. Invité du 13-14 aujourd'hui, Philippe Olivier, eurodéputé RN et conseiller spécial de Marine Le Pen. Bonjour monsieur.
Bonjour.
01 45 24 7000 pour les auditeurs qui veulent dialoguer avec vous. Soutien aux grévistes aujourd'hui, Philippe Olivier ?
Oui, naturellement, c'est très emblématique de voir qu'il y a une sorte de révolte sociale contre les aberrations technocratiques du gouvernement en matière sanitaire. C'est un véritable calvaire pour les familles, pour les enfants. Moi, j'ai vu et tout le monde a vu d'ailleurs des files d'attente devant les pharmacies où des parents sont là avec leurs enfants dans le froid. Tout ça est un peu curieux, un peu stupéfiant même. Hein, on comprend évidemment la colère des parents et des enseignants.
Soutien, mais vous n'allez pas défiler avec eux. Pourquoi cela ? Quitte à soutenir, autant aller jusqu'au bout ?
Non, parce que nous n'avons pas l'habitude de le faire. Nous participons à nos propres manifestations.
C'est pas la culture du RN de défiler avec les profs.
Oui, mais enfin, on n'est pas là pour récupérer des mouvements. On les soutient. Et puis les gens disent ce qu'ils ont à dire.
Que ferait Marine Le Pen au pouvoir dans la circonstance actuelle? 361 000 cas de Covid supplémentaires hier en France. Et puisqu'on parle de l'école, 75 000 cas quotidiens dans la tranche 0-19 ans. Taux d'incidence 2500 chez les enfants. Que feriez-vous vraiment là, maintenant, dans cette sixième vague épidémique ?
Écoutez, il y a évidemment une épidémie, il faut en prendre conscience.
En général, et pour l'école.
Il y en a, il faut en prendre conscience. Pour autant, est-ce que le pass sanitaire ou le pass vaccinal sont la solution ? Non.
On parle du pass dans un instant. L'école d'abord. Oui, que feriez-vous pour l'école ?
Eh bien, on réduirait, si vous voulez, le protocole à la prise de température frontale à l'entrée de l'école.
Donc on laisse circuler le virus encore plus qu'il ne circule.
Écoutez, le virus Omicron n'est pas dangereux au point qu'il faille tout désorganiser. Là, en l'occurrence, on a une sorte de panique sur ce virus avec des mesures qui ne peuvent même pas être appliquées tellement elles sont complexes.
Prise de température, s'il y a un cas positif, qu'est-ce qu'on fait ?
Eh bien, écoutez, à ce moment-là, on avise. Éventuellement, on fait faire des tests, mais on peut mettre aussi des purificateurs dans les écoles.
On en arrive quand même assez vite aux tests, néanmoins.
On peut aussi contrôler les eaux usées des écoles. Il y a un certain nombre de mesures qui n'entravent pas, si vous voulez, les libertés ou le bon fonctionnement des services publics.
On mettrait fin globalement au protocole sanitaire à l'école, si vous me dites qu'on se limite à des prises de température, y compris pour les enseignants. Donc, parce que dans la manifestation et dans la grève d'aujourd'hui, il y a aussi la demande de masques, de purificateurs, de plus de mesures de protection. Mais on laisserait tomber le protocole, y compris pour les enseignants.
Écoutez, pour les enseignants, moi je ne sais pas s'il faut maintenir ou pas, mais en tout cas pour les enfants qui ont vis-à-vis de toutes ces mesures des comportements infantiles et donc qui ne permettent pas d'aller les rendre totalement efficaces, je crois qu'il faut faire preuve de réalisme.
Que propose le Rassemblement National pour l'école, puisqu'on parle beaucoup d'école aujourd'hui, Philippe Olivier ?
Écoutez, d'abord, l'école, elle connaît une crise d'autorité, autorité des maîtres, et il faut donc rétablir de l'autorité. Et puis, il faut faire en sorte que l'école primaire apporte à tous les enfants de France une instruction, des savoirs élémentaires.
Vous reprenez le terme d'instruction comme Éric Zemmour ?
Oui, l'instruction, c'est quoi? Ce sont les savoirs élémentaires, lire, écrire, compter. Et on remarque que ben, quand on arrive en sixième, il y a encore des enfants qui ont des difficultés en lecture, par exemple. Donc il y a un gros chantier de rénovation de l'école.
Et concrètement, on fait quoi? Chantier de rénovation, il se manifeste comment? Quelles mesures plus précisément? Zemmour, par exemple, dit, moi je rétablis le certif pour vérifier le niveau en CM2. J'enlève les heures de langues étrangères pour qu'il y ait plus d'heures de maths et de français. Est-ce que c'est des mesures comme ça que vous appelez de vos voeux?
Oui, bien sûr. Tout cela doit se voir évidemment avec les enseignants. Mais globalement, il faut effectivement renforcer les savoirs élémentaires. Hein, je vous ai dit, lire, écrire, compter. Il faut également revaloriser la situation des enseignants, parce que quand on regarde leur situation par rapport à leurs collègues étrangers d'Europe, et ben on se rend compte qu'ils ne sont pas très bien lotis.
De combien vous l'avez chiffré, ça? Anne Hidalgo, qui vient de détailler son programme, laisse tomber le doublement des salaires des enseignants, mais elle veut 2000 euros pour des instits débutants, voilà, en début de carrière. Est-ce que vous avez chiffré? Est-ce que vous avez une somme?
Non, tout ça sera communiqué par Marine Le Pen en son temps. Nous parlons, là, je vous parle de revalorisation. Mmh. Évidemment, il ne s'agit pas de doubler le salaire des enseignants, parce que c'est un tout petit peu irréaliste quand même.
Globalement, Philippe Olivier, petite question sur le flou du programme, là, que ce soit sur le Covid ou sur l'école. J'ai regardé le site de Marine Le Pen ce matin. Pour l'instant, les programmes détaillés, c'est pour l'outre-mer, pour l'immigration et pour le tourisme. Il n'y en a pas d'autres. Quand est-ce qu'ils arrivent, les programmes et les propositions très détaillées?
Alors, nous procédons par livret thématique. Oui. Les livrets thématiques sont produits au fur et à mesure du développement.
Parce qu'on est à 87 jours du premier tour.
Oui,
quand même.
Mais le 5 février, vous n'ignorez pas que nous allons avoir une convention. Ouais. Et vous aurez une vingtaine de livrets thématiques disponibles. Et au fur et à mesure de la campagne, au fur et à mesure que les thèmes seront abordés, les livrets complémentaires sortiront.
On parlait du Covid sur le vaccin, puisque là encore aujourd'hui, il est question beaucoup des enfants. Est-ce que vous appelez à la vaccination des enfants et des adolescents?
Non, nous pensons que la vaccination des enfants et des adolescents n'est pas une priorité. Le vaccin pose un certain nombre de problèmes, mais le bilan coût-avantage ne nous semble pas...
Même si les scientifiques disent que justement ce rapport coût-avantage plaide en faveur du vaccin, y compris pour les enfants.
Écoutez,
vous ne raccordez pas crédit là-dessus?
Les scientifiques disent beaucoup de choses et d'autres disent le contraire.
Il y a à peu près consensus, en tout cas pour les grandes institutions, haute autorité de santé, la dernière.
L'OMS est aussi critique sur un certain nombre de
mais sur la balance coût-bénéfice, il n'y a pas de doute.
Pardon?
Sur la balance coût-bénéfice pour le vaccin.
Oui, d'accord, mais nous laissons ça à la sagacité des parents. Nous ne voulons pas de vaccination obligatoire pour les enfants.
À propos de la vaccination en général, le discours de Marine Le Pen, c'est de dire « moi, je suis vacciné ». Mais je ne veux pas appeler, je ne veux pas m'introduire dans l'intimité des gens en appelant à vacciner. Là encore, il y a une question de quand on est au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que malgré tout, le pass vaccinal, vous êtes contre, le pass sanitaire, vous êtes contre, a permis de booster la vaccination, de la développer, ce qui joue quand même un rôle clé dans le fait que l'épidémie d'Omicron, aujourd'hui, n'a pas de conséquences hospitalières aussi massives qu'on pouvait le redouter.
Non, mais
et du coup, quand on est l'appel à la vaccination permet, enfin voilà, la pression pour la vaccination permet aussi de développer et de lutter contre la maladie. C'est une chose de dire une chose dans l'opposition et de le faire au pouvoir.
Non, mais écoutez, il faut être très juste. On nous a dit officiellement, faites-vous vacciner. Mm-hmm. Une dose, vous verrez, tout ira bien. Puis on nous dit, il faut une deuxième dose. Puis maintenant, on nous dit, il faut une troisième dose. Alors, on n'ose pas les appeler troisième, quatrième dose, on appelle ça rappel. Et puis, on commence à nous dire, il y aura un rappel tous les 4 mois. On voit bien
ce qui est le cas pour beaucoup de maladies.
Non, pas des rappels.
La grippe, par exemple, tous les ans.
Vous n'avez pas un rappel de grippe tous les 4 mois, c'est pas vrai ça. Ça prouve que la stratégie vaccinale, et uniquement vaccinale, ne va pas.
Ouais.
Parce qu'on nous avait dit, vous aurez une vie normale. Et les gens se disent, on nous a menti. Et la parole publique,
c'est aussi la science qui a progressé, qui a appris fur et à mesure. C'est aussi la science qui a appris et les variants.
Oui, mais vous ne pouvez pas me dire et vous ne pouvez pas nous dire que le vaccin a tout réglé. On continue à être à transmettre le virus et même à le recevoir en étant vacciné. Donc qu'on arrête de nous dire que la stratégie vaccinale est la seule possible ou la seule qui vaille.
Ce qui n'était pas le sens de ma question, mais je vois votre réponse. Quelques petites phrases clés du débat politique. Philippe Olivier, Éric Zemmour hier sur BFM, Marine Le Pen et la Arlette Laguiller de la droite nationale.
Oui, moi je remarque que ce sont des petites attaques personnelles, un peu perfides, qui n'ont pas de sens politique. Si vous voulez, la question, la grande question qui se pose...
Le sens, en l'occurrence, c'est de dire c'est sa troisième candidature, ça va bien, enfin, dans l'esprit d'Éric Zemmour, j'imagine.
Oui, mais cela dit, il est largement devancé dans les sondages, il a choisi un positionnement qui est extrêmement brutal, extrêmement radical, avec des provocations, des outrances. C'est son choix, il continue, d'ailleurs, il est dans l'outrance contre Marine. Nous, on a choisi de proposer un projet qui est national et qui est politiquement et juridiquement viable. Nous le faisons et je pense que les sondages nous créditent de la réussite de cette position politique.
Ça n'est pas le cas de son projet à lui. Il n'est pas...
Écoutez, pour l'instant, quand il n'a pas de projet... Il est plutôt dans l'invective et sinon il fait du copier-coller du projet de Marine.
Question au standard pour vous, Philippe Olivier. Question de Denis dans l'Oise. Bonjour Denis.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour monsieur.
Je constate que monsieur le conseiller de Madame Le Pen reste dans le flou sur les questions posées en termes de santé, d'éducation, mais ce n'est pas pour me surprendre. Non, je voulais poser une question concise. Si Monsieur Éric Zemmour n'obtient pas les 500 signatures nécessaires à sa candidature, est-ce que le Front, Rassemblement National, donc Marine Le Pen, est prête à faire une alliance avec cette personne? Et c'est là que je suis un peu troublé parce que, en termes d'opinion, si on ajoute les calculs concernant ces deux candidats. Ce qui me choque et me déstabilise, c'est quand même que près de 28% des Français sont prêts à voter pour des partis d'extrême droite. Et en cela, ça m'inquiète beaucoup.
De fait, les enquêtes d'opinion sont flatteuses. Philippe Olivier.
Je vais vous inquiéter encore plus parce que vous avez fait un mauvais calcul. En fait, c'est pas 28, c'est plutôt 30, voire 32, voire 35.
Si on ajoute Dupont-Aignan.
Exactement. Et donc, le courant national est extrêmement puissant. Il va de soi que si Éric Zemmour n'était pas candidat, ce que je regretterais parce que la démocratie exige que tous les candidats qui ont une légitimité à se présenter puissent le faire. Eh bien, si M. Zemmour n'était pas candidat, effectivement, ses électeurs se reporteraient en grande partie, je pense, vers Marine, qui non seulement fait un certain nombre de constats qui sont similaires, mais apporte des solutions concrètes.
À combien en est-elle de parrainage ?
Écoutez, on va pas se mentir, on rame, c'est compliqué, c'est difficile.
Mais pourquoi combien ?
Écoutez, je peux pas vous dire, je m'occupe pas de
Zemmour
ça.
Zemmour dit 300, Mélenchon dit 400.
On doit être entre 400 et 500, mais c'est vrai que c'est difficile. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de maires qui subissent les pressions des présidents d'agglomération qui leur disent si vous donnez votre signature à tel ou tel, eh bien, vous n'aurez plus de subvention. Il y a là un détournement de la démocratie.
Est-ce que vous allez vous tourner vers les maires LR, puisque au fond, la ligne à LR, c'est de dire ceux qui donnent leur parrainage à Éric Zemmour ou Marine Le Pen s'excluent eux-mêmes du parti, mais nous ne donnons pas de consigne particulière. Est-ce que vous vous tournez vers les maires LR pour obtenir des parrainages s'il en manque ?
On se tourne vers tous les maires de France. Les maires ne sont pas là pour donner un parrainage qui signifie une adhésion à la candidature, mais le fait simplement de dire que la candidature est solide, elle est sérieuse, elle n'est pas fantaisiste. Voilà le sens du parrainage. Donc on s'adresse évidemment à tous les maires.
Est-ce que le fait de ramer, comme vous dites, Philippe Olivier, ça ne signe pas un échec du Front National devenu Rassemblement National? Au fond, tous les partis, Anne Hidalgo, beaucoup plus bas dans les sondages que Marine Le Pen, n'aura pas de problème à réunir ses parrainages, parce que il y a tous les élus, PS, le FN devenu RN est maintenant dans le paysage depuis fort longtemps. Vous n'avez pas un réseau d'élus locaux suffisamment solide pour vous parrainer?
Oui, parce que ça tient au déficit démocratique. Quand on est le premier parti, on a été le premier parti aux élections européennes, et que quand on est le premier parti et que sur 1000 parlementaires, on en a 7, c'est qu'il y a un problème majeur. Quand Madame Hidalgo, qui est créditée de 3% des voix, peut se targuer de 2000 parrainages, alors qu'elle ne représente rien dans l'opinion, c'est qu'il y a un problème.
Il faut s'interroger sur ce problème démocratique. Il y a aussi le fait que vous avez perdu un tiers de vos élus régionaux et la moitié des élus départementaux aux dernières élections.
On a 300 élus régionaux. Écoutez, le scrutin nous est particulièrement défavorable. Et malgré tout, on y participe et on ne conteste pas le résultat des élections. Créditez-nous au moins d'un comportement extrêmement démocratique. Nous allons à cette élection avec l'idée d'être candidat et de présenter un programme. Il faut que les institutions jouent leur rôle et nous permettent de concourir.
Et de ce point de vue-là, le président du Sénat, Gérard Larcher, a appelé les maires à jouer leur rôle et à parrainer tous les candidats.
Oui, il est dans son rôle de faire fonctionner les institutions et notamment les institutions locales.
Merci Philippe Olivier d'être venu dans les studios de France Inter ce week-end. Où est-ce qu'elle sera, Marine Le Pen? On ne sait pas où est-ce qu'elle sera.
Elle sera en Bretagne. Ouais. Elle va parler des éoliennes et de l'énergie. Elle parlera également des pêcheurs.
Merci d'être venu dans les studios de France Inter. 13h44.
France Inter, le 13-14.
À suivre, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno Dubic.
Molière, comment faire la part de la légende et de la réalité?
Oui, à partir notamment des travaux de Georges Forestier qu'on entendait chez Nagui il y a un instant.
C'est dans 10 minutes avec vous. Le feuilleton, quatrième moment avec la chef d'orchestre Zaya Ziwani. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
545 romans et récits français et étrangers paraissent en ce début d'année dans le cadre de la rentrée littéraire de janvier. Parmi eux, celui de la romancière prix Femina il y a quelques années, Geneviève Brisac, Les Enchanteurs, c'est aux éditions de l'Olivier. Elle est à votre micro, le temps d'une chanson.
Geneviève Brisac, par ailleurs connue pour son travail d'éditrice. Et c'est justement dans le monde de l'édition que nous plonge son roman, les années 80, 90, 2000, Portrait d'une courageuse. Dans un milieu terriblement misogyne, il est ici question d'emprise professionnelle, de grands patrons qui charment autant qu'ils manipulent. Charmeur. Les garçons dont elle m'a parlé l'étaient d'ailleurs aussi. Geneviève Brisac a choisi d'évoquer une chanson des Beatles.
Quand les Beatles arrivent, je suis un petit peu jeune, donc je vois tous les gens autour de moi complètement fanatisés par les Beatles, et donc je veux en être. Je dois être en sixième, donc je veux faire une boom comme les autres gens de ma classe, mais je n'ai aucun disque. Enfin, si j'ai un disque de Tchaïkovski, mais ça va pas aller pour la boom. Et donc je dis à mes parents, il faut absolument m'acheter un disque pour que je puisse faire une boom comme les autres, quoi. Je me souviens en particulier, il y avait une fille que je voulais inviter qui s'appelait Rita Don Simone. Voilà. C'est pourquoi Rita Don Simone, dont j'ai jamais plus entendu parler.
Un nom d'actrice.
Un nom incroyable. Et donc, ils m'ont offert un disque des Beatles et j'étais très très fière de Help. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone.
Help. When I was younger, so much younger. Cette boom que vous avez organisée, est-ce que les Beatles sont d'une certaine manière sauvés?
Ah oui, 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 bien sûr. Encore qu'on m'a dit par la suite que j'étais vraiment pas du tout bonne en boom. Je crois que je n'ai pas un naturel follement extraverti, quoi. Donc Rita Don Simone y était mieux.
Has arrived. The Beatles, Help, available on Blu-ray for the very first time.
Et là, ce qu'on entend, Frédéric, c'est la bande-annonce de la version remasterisée du deuxième film avec les Beatles.
Lequel porte le même titre que la chanson Help. Il est sorti en France en août 1965, ce film. Geneviève Brisac avait 13 ans.
Et donc j'ai été voir Help. Et ça m'a tellement grisé que je suis restée à la deuxième séance. Et donc, quand je suis rentrée chez moi, mon père m'attendait dans l'escalier. C'était pas très bon signe. Et il m'a demandé où j'étais, ce qui n'était pas très bon signe non plus. Et donc, je lui ai dit que j'étais allée voir Help. Il m'a dit, oui, ça, je sais, ta mère me l'avait dit, mais ça finissait il y a 2 heures. Donc, qu'as-tu fait depuis 2 heures? Et j'ai dit, mais je suis restée. Et il m'a pas cru. Il m'a dit, puisque c'est comme ça, je ne te ferai plus jamais confiance. Et cette phrase s'est gravé au fond de mon petit cœur. Très mauvaise phrase. Il ne faut jamais dire ça à un enfant.
Donc cette chanson, elle reste liée à cette dispute.
Oui, c'est vrai. Et puis son titre même, Help, Help me if you can. C'est Au secours, aidez-moi, qui était tout à fait ce que je ressentais à cette époque-là de ma vie, où j'attendais terriblement qu'on me tende la main, qu'on me comprenne et qu'on m'aide.
Vous vouliez qu'on vous sorte de quoi?
Pas du chagrin dans lequel j'étais, de l'inquiétude terrible dans laquelle j'étais sans savoir pourquoi et de la solitude extrême dans laquelle j'étais sans comprendre tout à fait de quelle solitude il s'agissait.
Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground.
Cette chanson, elle a continué à vous accompagner tout au long de votre vie ?
Oui, je pense, oui. Oui, comme quelque chose de très résistant, justement. C'est une chanson à laquelle on peut s'accrocher, finalement. Comme on s'accroche à une main quand on est en train de tomber dans le précipice. Scène classique de la chute dans le précipice. La main se tend, vous l'attrapez et vous montez.
On s'en sort toujours ?
Ouais, bien sûr. Je ne sais plus qui disait, je ne sais même pas où et dans quel film. De toute façon, ça finira bien. Et si ce n'est pas bien, c'est que ce n'est pas fini.
Ça, c'est une très belle conclusion.
C'est pas mal.
Help, des Beatles, c'était donc Frédéric, le choix de Geneviève Brisac.
Dont le très beau livre Les Enchanteurs vient de paraître aux éditions de L'Olivier.
À demain.
À demain.
Le feuilleton toute cette semaine, grâce à Amélie Perrier, nous sommes avec Zaya Ziwani, chef de l'orchestre Divertimento. La musicienne qui a grandi en Seine-Saint-Denis y a installé dans ce département son ensemble classique, car la musique symphonique a aussi sa place en Seine-Saint-Denis, département parmi les plus pauvres de France. Même s'il y a des manques, la preuve, dans le début de ce quatrième épisode, on est dans une magnifique salle des Hauts-de-Seine.
C'est important d'être à la scène musicale. Vous me disiez, à Pantin, il n'y a pas de salle pour répéter avec un symphonique.
Oui, c'est vrai. Alors après, aujourd'hui, nous, on a un orchestre qui est très implanté en Seine-Saint-Denis parce que c'est aussi le territoire qui nous a accueillis, avec lequel on a beaucoup de projets, qui a une belle dynamique, une belle richesse, mais qui a aussi ses inégalités. Et notamment, on n'a pas d'équipement culturel de qualité qui permet d'accueillir un orchestre symphonique. Donc on est en résidence dans ce département, mais malheureusement, on n'a pas la possibilité d'y répéter sereinement. Et surtout, le public de la Seine-Saint-Denis n'a pas l'opportunité d'avoir une salle où ils peuvent écouter avec qualité, ou en tout cas d'aussi bonne qualité que dans d'autres salles où on peut retrouver à la Philharmonie ou ici à la scène musicale. Symboliquement, c'est pas anodin de voir que nous, on est obligé de venir répéter ici parce qu'on n'a pas les outils. Donc, ça fait partie des objectifs qu'on se fixe aussi avec l'orchestre, d'arriver à associer aussi toutes les dynamiques qu'on peut retrouver sur ces départements, les villes, la région, l'État aussi, pour que ça soit aussi un objectif sur ce territoire-là, d'avoir une salle de concert qui permette d'accueillir des projets de l'orchestre Divertimento en symphonique, mais aussi des projets à notre image, c'est-à-dire des nouvelles visions, des nouvelles approches artistiques, le lien entre les cultures urbaines et le symphonique, entre le patrimoine et la modernité. J'espère vraiment qu'un jour on arrivera à concrétiser ce lieu. Donc en attendant, nous avec l'orchestre, sur des formations plus réduites, on a un très bel auditorium Astin qui nous permet de pouvoir faire ce travail-là. Mais sur les grandes formations telles que celles avec lesquelles on répète aujourd'hui, malheureusement, soit on répète à la Philharmonie de Paris, soit ici pour offrir aussi la qualité artistique que nécessite cet orchestre aujourd'hui pour travailler. Si je veux faire l'analogie avec le sport, on ne peut pas jouer en Ligue des Champions en s'entraînant tous les jours dans un terrain de quartier. Il faut aussi avoir des outils de qualité pour s'écouter. Donc, c'est aussi pourquoi on a décidé de répéter là.
Messieurs, dames, E pour faire la transition. 3, 4. On a trop facilement l'idée en tête de se dire que quand c'est dans d'autres endroits, c'est pas considéré comme de la culture, mais c'est une approche socioculturelle, mais ce sont des actions culturelles, alors que pas du tout. Et les concerts qu'on donne à Astin, à Sevran, on les fait dans la même tenue, avec les mêmes partitions, et ce sont les mêmes œuvres musicales que quand on joue à la Philharmonie, au Grand Théâtre de Provence ou autre.
Le 93, il y a une appétence, comme dans n'importe quel département, pour la musique classique. Vous le voyez, ça, auprès des jeunes, auprès des adultes ?
Oui, bien sûr. Bien sûr que je le vois tous les jours et je crois que j'ai jamais rencontré une personne qui est rentrée dans une des actions que je portais, dans un des concerts que je donnais, en se bouchant les oreilles, en disant « Zaya, ça m'intéresse pas ». Vous mettez quelqu'un devant un orchestre symphonique, ça envoie les watts, comme disent les jeunes. Il y a une belle énergie, donc personne n'est insensible à ça. Aujourd'hui, par exemple, j'ai plein de musiciens d'orchestre Divertimento qui sont présents à Roubaix aujourd'hui, à Valence, d'autres dans l'Est de la France, à Stein, parce que justement, on mène ces actions pour aller rencontrer ces publics-là, les amener à découvrir ce que c'est la musique, pourquoi c'est le hautbois qui donne le la, pourquoi on a à notre programmation les œuvres, de découvrir leur contexte, d'entendre de la musique, tout simplement, de rencontrer les artistes qui verront après sur le plateau. Donc c'est ce travail-là que je fais depuis 20 ans, et le fait d'être
au contact des populations, des publics, des habitants, et ben je peux attester que bien sûr qu'ils ont envie, tout le monde a envie de vivre des belles émotions et tous les parents ont envie que leurs enfants réussissent, et donc du coup la culture aide aussi aux enfants à bien grandir.
Zaya Ziwani avec Amélie Perrier, réalisation du feuilleton Lucie Le Marchand, dernier épisode demain. Juste cette information de dernière minute avant de donner la parole à Jean Lebrun. Olivier Véran, le ministre de la Santé, positif au Covid. Il confirme des informations de l'agence France Presse. Je viens d'être testé positif au Covid. Il se met à l'isolement et assure ses fonctions à distance. Voilà ce qu'il dit sur Twitter. Laetitia Gaillet en reparlera dans le flash de 14h.
France Inter. Le 13-14.
Nous en venons donc au vif de l'histoire. Jean Lebrun, demain 15 janvier, marquera le début de l'année Molière. Ce sera le 400e anniversaire de sa naissance. On en parlera longuement avec deux actrices de la Comédie française. Premier regard avec vous, Jean. Il est difficile, s'agissant de Molière, de démêler la légende de l'histoire, bien souvent.
Dans les années 1820, alors c'était quel anniversaire de Molière, un paysan se serait arrêté un soir devant la Bibliothèque nationale à Paris. Il tirait une carriole dont il assurait qu'elle contenait les papiers de Molière. Mais les portes de la rue de Richelieu lui seraient restées fermées et il serait reparti avec son trésor à tout jamais perdu. En réalité, si on cherche bien, on peut trouver davantage de sources qu'on ne croit. Georges Forestier, qui a édité Molière dans la Pléiade, a ainsi inventé, au sens de découvert, nombre d'archives notariales, par exemple celles concernant l'illustre compagnie que fonde Molière dès 1643. L'aventure se termine par un moment de prison pour dette au Châtelet, mais un moment court. Et la troupe, qui s'en va ensuite jouer dans les provinces pendant une douzaine d'années, ne va pas voyager dans l'indigence. Entre 1645 et 1648, elle ne se produit que dans une vingtaine de lieux, jeux de paume, hôtels de ville, châteaux, lieux privilégiés, personnes d'importance, c'est ça le public de Molière.
Autre légende, il aurait commencé par des pièces venues de la farce médiévale, de la Commedia dell'arte, puis il serait progressivement monté en gamme avec des comédies sérieuses, voire des tragédies comme Don Juan.
Oui, enfin, il fixe pas de ligne, Molière. Une fois revenu à Paris en 1658, il se voit en entrepreneur de spectacle davantage qu'en auteur. Il doit remplir ses grandes salles au Petit Bourbon, puis au Palais Royal. Il répond à la demande. Et dans la capitale, comme en province, il s'adresse aux mondains. Il va leur offrir ce qu'ils attendent, et d'abord la satire de ceux qui les imitent en vain. Ainsi, dans Le Bourgeois Gentilhomme.
Le ton de voix sentencieux, cette exactitude, vous voilà le plus propre du monde. Vous avez tout à fait bon air, vous êtes tout à fait galant.
Les galants, Frédéric, le public de Molière. Il va ensuite les amener à rire d'eux-mêmes, il leur tend son miroir, et il s'en accommode.
Donc c'est le public de Paris d'abord, l'importance déterminante que va avoir Versailles, ce n'est tout de même pas une légende ça.
C'est une belle idée, je vous rappelle une phrase de La Fontaine, que d'avoir le même sujet pour la comédie et le ballet. Alors La Fontaine c'était un client du surintendant Fouquet. Molière va à Versailles prolonger la formule des fêtes que Fouquet avait imaginée avant d'être disgracié. Aux tragédiens à l'ancienne, comme Corneille, il lance cet avertissement. Pour chanter de Louis, Louis XIV, l'intrépide courage, il n'est point assez de voix, point de mots, assez grand pour en tracer l'image. Vos louanges n'ont rien qui flatte ses désirs. Laissez là sa gloire, ne songez qu'à ses plaisirs. Et c'est ainsi qu'en 1671, il présente dans la grande salle à machine des Tuileries, devant 6000 spectateurs, une immense pièce ballet, Psyché, 327 personnages, 120 musiciens. Alors on ne sait pas trop quel nom donner à ce théâtre, qui cherche à contenir tous les divertissements et qu'accompagne généralement un vaste buffet avec des corbeilles de fruits venues d'un peu partout et même des oranges du Portugal.
Et on ne se figure pas nécessairement ainsi le dernier Molière, qu'on se représente plutôt comme un asset du théâtre qui meurt sur scène peu après en 1673.
Comédie mêlée, comédie ballet, l'Opéra Royal de Versailles donne actuellement Georges Dandin, souvent représenté comme une simple farce. Mais dans cette perspective avec munificence, faste et musique de Lully, bientôt le roi va délimiter strictement les domaines de chacun des deux hommes. Le privilège musical reviendra à Lully. Molière devra remplir son théâtre avec des pièces uniquement parler. Ben, je pense que c'est de ça que vous parlerez demain dans un 13-14 largement consacré à Molière.
Absolument, et le 15 janvier, c'est après-demain et non pas demain, comme je l'ai dit, la date anniversaire. On peut rappeler l'édition de la Pléiade, dirigée par Georges Forestier pour Molière. Et puis le podcast du camarade Philippe Collin, Molière, le chien et le loup, à télécharger sur les bonnes plateformes, en particulier celle de Radio France. Merci Jean Lebrun et bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Quel est le programme de la Terre au Carré, s'il vous plaît ?
On va parler des ravages de l'activité minière dans le monde.
À tout de suite.